Bien, en ce qui me concerne, ce que je vais faire, c'est vous montrer en quelque sorte une exemplification de ce qu'Yves Matron a pu raconter, c'est-à-dire vous montrer le travail de certaines équipes. Alors en particulier sur le triangle, donc c'est plutôt au niveau collège, avec trois contributions, puisque de façon séparée, mais de façon dont le bilan en quelque sorte est intéressant, c'est de voir ce que ces trois équipes ont fait. Il y a une équipe à Clermont, une équipe à Marseille et une équipe à Bordeaux qui ont travaillé là-dessus. Clermont au niveau du programme de 5e et Marseille et Bordeaux au niveau de la classe de 4e. Tu le présenteras demain,
hein ? Oui, je présenterai demain.
Bien, donc Marseille, vous y aurez droit demain. Marseille, en utilisant le triangle, arrive à présenter le théorème de Thalès, à motiver le théorème de Thalès. Je vais vous montrer tout d'abord donc, ce qu'on a fait à Clermont et à Bordeaux. Donc, contribution de Clermont, c'est un essai en classe de 5e. Alors, je dis bien un essai parce que, effectivement, comme l'a dit Yves, la contrainte que nous avons, c'est de faire des essais dans des classes effectives, avec des professeurs, en quelque sorte, qui n'ont rien de particulier, de faire ensuite une évaluation de ce qui a pu être fait, de ce qui pourrait être amélioré. Au passage, d'ailleurs, je vais vous montrer ce qui a été fait et en même temps pointer éventuellement quelques pistes d'amélioration. Alors, sur le triangle, à Clermont, comme Yves l'a déjà développé, je crois qu'on est un peu dans la même ligne, c'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'est aller vers un autre type de processus d'études et d'enseignement. Là, je vais répéter, donc je vais peut-être passer assez vite là-dessus, ce que nous donne à voir l'enseignement actuel des mathématiques est le plus souvent une étude non motivée d'objets mathématiques. Comme le disait Yves Chevalard, l'enseignement tente à prendre la forme d'une visite guidée de savoir qu'on visite à la hâte, à l'instar de vestiges monumentaux autrefois vivants, mais dont les raisons d'être, les fonctions vitales, ont cessé d'être comprises. Ça, on est parti là-dessus, nous aussi. Donc, essayer de partir de questions problématiques et de n'introduire l'étude d'objets que parce que celle-ci peut contribuer à l'élaboration de réponses, éventuellement partielles, aux questions posées. Donc, c'est en cela qu'il y a un peu une inversion du processus pédagogique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on peut voir essentiellement, c'est qu'on part des objets, on en étudie les propriétés et éventuellement on en voit des applications. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'inverser le processus, c'est-à-dire qu'on part de questions problématiques et les objets sont introduits parce qu'ils sont des réponses à ces questions. Alors, par exemple, à Clermont, voilà la question qu'on s'est posée. En classe de 5e, vous avez une partie de programme qui est donnée. Et question, c'est comment rendre l'étude dynamique. Comment répondre à une telle, et surtout, comment répondre à une telle question de façon quelque peu générique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de répondre de façon particulière sur une partie de programme, mais d'essayer de se donner des méthodes qui permettent en quelque sorte d'y répondre de façon plus générale. Donc, on pourra généraliser à d'autres parties de programme. Alors, par exemple, ceux qui connaissent bien le programme de 5e, et je crois que c'est toujours le programme actuel, vous avez construction de triangle et inégalité triangulaire. Avec, dans le deuxième bandeau, construire un triangle connaissant la longueur d'un côté et les deux angles qui lui sont adjacents, les longueurs des deux côtés et l'angle compris entre ces deux côtés, les longueurs des trois côtés. Vous reconnaissez les cas d'isométrie, qui autrefois constituait un essentiel du programme de collège. Quand je dis autrefois, c'est quand j'étais élève, c'est-à-dire avant les années 70. D'un temps que peu d'entre vous doivent connaître. Question, quelles sont les raisons d'être de l'étude des triangles? Parce qu'effectivement, on peut se dire que le triangle tient une place importante dans l'étude géométrique au collège. On pourrait même dire que c'est une figure emblématique. Et pourquoi on l'étudie un peu sous toutes les coutures? Donc, à quoi il sert? La place accordée, alors je vous lis le texte, la place accordée à l'étude de cette figure emblématique que le triangle au collège et au lycée est à titre de seul exemple significative. De multiples propriétés en sont démontrées de multiples manières. Par exemple, ceux qui font la préparation au CAPES, je pense que vous conseillez à vos étudiants d'utiliser le bouquin du couple Sortet, la géométrie du triangle, où vous avez 200 pages qui traitent uniquement des propriétés du triangle. Mais qui parmi les professeurs de mathématiques peut encore donner les raisons justifiant d'accorder une telle importance à la géométrie du triangle? Quand on interroge des étudiants qui préparent le CAPES, pourquoi accorder une telle importance au triangle, ils ne savent pas très bien. Quand on a commencé à faire le travail, nous non plus, on ne savait pas pourquoi, effectivement, dans les problèmes de mathématiques, subsistait une telle importance accordée au triangle. Alors, en quoi cela informe-t-il l'élève sur le monde actuel, à venir ou passé? Là, je réfère un peu à ce que disait Establet, des élèves qui disent que, certes, les mathématiques sont importantes pour réussir scolairement, mais que cela ne les éclaire pas véritablement sur le monde. Ainsi, certains contenus du programme sont perdurés parce que dans la tradition, dans l'héritage scolaire, il les enseignait apparaît bel et bon sans plus d'interrogation sur la pertinence de cet enseignement. Sur ce seul cas, il y en a bien d'autres, on a perdu de vue les questions fondamentales que les propriétés de cet objet permettent de résoudre. Mais je ne fais que répéter des choses dites déjà par Yves. Donc, d'un point de vue méthode, Yves a insisté tout à l'heure, et je vais vous montrer en quoi c'est intéressant, c'est de rechercher des questions à fort pouvoir générateur d'études et de recherche, qui est en rapport avec le thème. Alors ça, c'est une classification que l'on doit à Yves Chevaleur, sujet, thème, secteur, domaine, discipline. Bien souvent, les activités, ce qu'on peut voir dans les manuels, c'est qu'on va chercher des sujets qui vont illustrer en quelque sorte un chapitre, par exemple. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de remonter au niveau des domaines, par exemple, la géométrie, et se demander quelles sont les grandes questions qui motivent l'étude de la géométrie. Alors, si vous regardez le problème de cinquième, si je reprends ces niveaux, et si j'essaye de situer la petite partie de programme qu'on se propose d'étudier, vous avez construction de triangle et inégalité triangulaire, on peut appeler ça un sujet. Si vous remontez les niveaux, vous avez au niveau du thème les triangles, le secteur, c'est le secteur des figures planes, c'est le découpage du programme qui donne ça, en classification de plus en plus étendue, et bien sûr, le domaine, c'est la géométrie, la discipline, c'est les mathématiques. Question, quelles sont les questions à fort pouvoir générateur d'études et de recherche dans le domaine de la géométrie? Et on regardera ensuite en quoi le triangle peut répondre à ces grandes questions. Les réponses, finalement, il ne faut pas y réfléchir très longtemps, mais on en a vu au moins trois grandes questions génératrices d'études. C'est premièrement la détermination des grandeurs géométriques, longueur, air, volume, comment les déterminer, et ça en de multiples situations. Un secteur également important, source de bien de questions, ce sont les constructions géométriques. Comment construire? Et ça, c'est peut-être un secteur qui est quelque peu négligé au niveau de sa problématicité. Alors bien souvent, il est vu comme des applications quand on traite un programme.
Je peux dire, Robert, là-dessus, vous avez dans le hall d'entrée une exposition sur la peinture et le dessin. Et vous avez toute une partie de géométrie, de dessin géométrique qui est affichée sur les panneaux ici.
Dernière grande question qu'on peut attribuer au domaine de la géométrie, c'est se repérer sur une droite, dans un plan, dans l'espace, sur la Terre, etc. Passage, le barycentre, par exemple, ça sert essentiellement à se repérer. À repérer un point dans un plan ou dans l'espace. Ou sur une droite. Ceci dit, en quoi les triangles peuvent contribuer à l'étude de ces grandes questions? Par exemple, les triangles vont contribuer à la détermination de longueur et de distance, en particulier inaccessible. Ils peuvent contribuer également à la mesure des aires. Si vous savez calculer l'aire d'un triangle, pour une surface quelconque, vous pouvez l'approcher par une surface au sens courant du terme. Mathématiquement, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Vous pouvez l'approcher par une surface polygonale, et cette surface polygonale, ensuite, vous pouvez la décomposer en triangle, et ainsi, si vous êtes capable de calculer l'aire d'un triangle, vous savez calculer de façon approchée l'aire d'une surface. Il y a une équipe belge qui a essayé de travailler sur cette question, introduire les triangles avec cette question de mesure des aires. Alors, voilà ce qu'on a fait, et déjà je vais pointer quelques problèmes en vous lisant ce petit texte. Alors, la lecture du programme peut nous conduire à penser que le thème spécifié par le programme est à classer dans le secteur des constructions géométriques, puisque le programme dit qu'il s'agit d'apprendre aux élèves à construire un triangle connaissant. Trois côtés, connaissant un côté et deux angles adjacents, connaissant deux côtés et l'angle compris entre les deux côtés. Ce qu'on s'est dit, c'est que pour nous, c'était pas suffisant et qu'il fallait trouver d'autres raisons d'être, motivant le fait qu'on demande aux élèves de construire des triangles. Ce qui fait qu'on peut dire, certes, il conviendra, puisque le programme le spécifie, et au passage, on est très contraint par les programmes, il conviendra que techniquement les élèves sachent réaliser de telles constructions, puisque le programme l'exige, sachent aussi inégalité triangulaire à quelles conditions la construction avec la donnée de trois longueurs pour le côté est possible, mais on a qualifié ces tâches de bien insignifiantes, et peut-être qu'on a tort par rapport à ça. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Si on ne sait pas pourquoi, on peut être amené à réaliser de telles constructions. On est donc amené à se poser la question du pourquoi de ces constructions et se demander quelles en sont les raisons d'être. C'est-à-dire qu'on va remonter dans les raisons d'être. Il y a une première raison d'être, c'est être capable de construire un triangle, construction géométrique. Quelles données il faut pour être capable de construire un triangle? C'est déjà une première question. Et ceci dit, il faut bien s'arrêter à un certain moment au niveau des raisons d'être. Une des raisons d'être de l'étude des triangles apparaissait dans d'anciens programmes, ceux d'avant 70, traitant des cas d'égalité des triangles. Ces derniers permettaient de déterminer la longueur d'un segment en montrant que celui-ci avait même longueur qu'un autre. Le principe consistait à utiliser des triangles égaux à l'époque, isométriques maintenant, c'est-à-dire superposables, tout simplement. On peut ainsi, pour déterminer la longueur d'un segment, être amené à construire un triangle qui soit superposable à un autre. Cette technique d'usage de triangles superposables conduit alors à se demander à quelles conditions des triangles sont superposables. Et là, je crois que c'est un point important, c'est-à-dire que dès qu'on a posé une question, on parle de dynamique d'étude, il faut voir en quoi cette question va entraîner, en termes de dynamique d'étude, d'autres questions. Par exemple, si je veux effectivement mesurer une distance inaccessible, je vais utiliser des triangles, mais pour pouvoir utiliser des triangles, par exemple, il faut que j'ai des triangles superposables. Et à ce moment-là, à quelles conditions j'ai des triangles superposables? Et la question à quelles conditions j'ai des triangles superposables va en générer d'autres. C'est ça que une des professeurs qui fait partie de l'équipe Lermontoise et qui enseigne un 5e a fait. Et je vais vous montrer un peu ce qu'elle a fait. Donc je disais, on a une première dynamique d'étude, c'est-à-dire que on a une première esquisse d'une dynamique d'étude, à savoir une première question à résoudre, comment déterminer une longueur que l'on peut mesurer directement, une distance inaccessible. Au passage, là, c'est très certainement une question qu'on pourrait développer en parcours d'études et de recherche, depuis les classes du primaire, jusque, si je prends les programmes actuels, jusqu'à la classe de première S, puisque sur ce parcours, vous allez trouver effectivement les triangles isométriques qu'on aborde en cinquième. Vous allez trouver Pythagore, puisque Pythagore, effectivement, ça sert à mesurer des longueurs. Vous allez trouver le théorème de Thalès. Vous allez trouver toutes les lignes trigonométriques. Et il faut attendre la première S, à l'heure actuelle, pour trouver la résolution des triangles en toute généralité, c'est-à-dire la formule des sinus et puis le théorème d'Al-Kashi ou de Pythagore généralisé. Donc il y a une espèce de parcours d'études et de recherche, mais qui est éclaté dans les niveaux scolaires. Et au passage, c'est une difficulté que de faire vivre de telles questions. Les élèves, semble-t-il, ont tendance, certes, ils peuvent les comprendre, mais ils ont tendance à les oublier, les grandes questions qui génèrent l'étude. Donc ensuite, une fois qu'on a posé une première question, se demander alors, ce sera la deuxième question motivée par la réponse à la première, quelles données suffisent à caractériser un triangle ? Cette deuxième question, formulée classiquement, étant ici comprise dans le sens « quelles données sur un triangle suffisent pour pouvoir en construire un autre qui lui soit superposable ?» Donc vous voyez que je n'ai pas cherché un exercice particulier pour illustrer le thème de la construction des triangles. On est plutôt parti de grandes questions, même si après, on va rabattre bien sûr sur des choses possibles en classe. Ce qui fait qu'en termes de dynamique d'étude, ce qu'on essaye de voir, c'est des questions qui, une fois l'étude engagée, conduisent elles-mêmes en quelque sorte à d'autres questions, qu'on va qualifier de cruciales. Et c'est ainsi qu'on qualifie le professeur de directeur d'études, parce que c'est au professeur, en quelque sorte, d'être attentif à ce qui se passe dans la dynamique d'études et de faire que ces questions soient posées, à un moment ou à un autre, soit parce que les élèves, en quelque sorte, arrivent à un point où, effectivement, la question peut apparaître, soit, si les élèves ne la posent pas, s'arranger pour qu'en fonction du travail des élèves, la question puisse être posée. Ce que nous cherchons à faire de manière générique est que ce soit la dynamique de l'étude qui amène à se poser de telles questions, ce qui signifie qu'elles doivent être fondées en raison, celle-ci étant trouvée dans le savoir et son organisation et donc dans son étude, même si c'est le professeur qui est amené à les poser. On peut alors espérer que ces questions soient naturellement acceptées par les élèves et que leur dévolution s'opère sans problème parce qu'ils les acceptent de manière nécessaire à ce moment de l'étude. Je crois que là où peut-être où on réussit quelque chose, c'est dans la dévolution des questions. C'est-à-dire faire que les élèves comprennent les questions. Ensuite, pour les réponses, vous le verrez, c'est peut-être moins aisé. Alors voilà comment on a débuté un travail en classe de 5e. Enfin, comment une professeure de l'équipe de Clermont a débuté un travail en classe de 5e. Elle a proposé à ses élèves donc une question sur des distances inaccessibles. Les élèves avaient sur une feuille de papier, avec des couleurs comme ça dessinées, il s'agissait de déterminer la longueur d'un segment AM. Et un peu pour convoquer en classe une situation du monde, celle d'un, Comment ça s'appelle, celle d'un géomètre. On peut opérer des mesures dans la partie rosée. C'est un territoire sur lequel vous avez le droit de vous déplacer, de faire des mesures. Mais vous n'avez pas le droit de franchir la partie bleutée, une rivière par exemple. Et le professeur évoquait le fait qu'avec un appareil de visée, on pouvait viser la direction du point M en se plaçant en A. Elle avait amené des cartons dans lesquels elle avait découpé une petite fenêtre qui permettait effectivement de faire des visées. Le résultat de cette première situation, qu'elle a interrompue assez vite parce qu'il y avait intérêt à la laisser se prolonger, c'est que les élèves comprennent bien la question, mais à aucun moment ne pensent, ou du moins il n'y en a eu aucun dans sa classe, ne pensent effectivement à placer un point B, faire des mesures d'angle, et ensuite, sur une feuille à côté, tracer un triangle isométrique. Par exemple, ce que font les élèves, c'est que ils ont tracé la direction AM, puisqu'on a le droit de faire des visées, et ils sont arrivés à la rivière en un point B, et à vue d'œil, ils ont dit, AB, c'est à peu près la moitié de AM, donc je mesure AB, et en multipliant par 2, j'ai la mesure de AM. Voilà à peu près ce que les élèves peuvent faire. Ce qui fait que, par rapport à ce type de situation, on s'émancipe du fait que ce soit les élèves qui puissent, grâce à leur répertoire, élaborer une réponse. Et là, c'est l'enseignant ensuite qui leur montre comment faire avec la construction d'un triangle isométrique. Enfin, pardon, la construction d'un point B, la mesure des angles, et ensuite sur une feuille de papier, une autre feuille de papier, puisque ceci c'est sur une feuille de papier, construire un triangle isométrique au triangle ABM. Une fois que vous avez votre construction. Vous avez réalisé la construction d'un triangle isométrique à ABM, vous pouvez effectivement déterminer AM. Donc première chose, ça c'est un peu une des questions que Yves a commencé à illustrer avec la question sur les milieux et les médias. On ne peut pas toujours espérer trouver en quelque sorte un milieu qui permette de s'émanciper du fait que ce soit le professeur qui donne une réponse ou que la réponse soit apportée par des informations qui ne soient pas directement produites par les élèves. Et en didactique, c'est une question qui est loin d'être simple. Mais on la théorise avec la notion de milieu et la notion de médias. Sachant que, comment manipuler des médias? Ceci dit, les élèves comprennent la question. Alors, visiblement, dans leur répertoire, ils ont suffisamment de connaissances pour comprendre ce que c'est que la détermination de la distance à M. Alors ça a été fait dans une séance assez brève. La fois suivante, la professeure a utilisé cette situation pour, en ce moment-là, attaquer la partie du programme qu'elle doit traiter à partir de la question de construction de triangle et inégalité triangulaire. Alors, construction de triangle, je vous donne rapidement les diverses consignes de travail qu'elle a données aux élèves. Première question. Sur une feuille posée sur le bureau, je reprends ces formulations, c'est-à-dire que les a personnalisés et je ne les ai pas transformés. Sur une feuille posée sur le bureau, j'ai dessiné un triangle dont les côtés mesurent 9,5 cm, 8 cm et 6,5 cm. Sans te déplacer, dit-elle aux élèves, peux-tu trouver combien mesurent les angles de ce triangle? Je vous dirai ensuite ce que ça donnait. Enfin, vous pouvez l'imaginer assez facilement. Les élèves savent faire facilement ça. Deuxième question, sur une deuxième feuille posée sur le bureau, j'ai dessiné un triangle dont les angles mesurent 59 degrés, 74 degrés et 47 degrés. Sans te déplacer, peux-tu trouver combien mesurent les côtés de ce triangle? La première question, bien sûr, est destinée à montrer que trois données suffisent à construire un triangle. La deuxième question montre le contraire. Trois données peuvent ne pas suffire à construire un triangle. Alors ensuite, est-ce que deux données suffisent pour déterminer un triangle? Est-ce que trois données suffisent pour déterminer un triangle? Est-ce que quatre données suffisent pour déterminer un triangle? Et vous avez là une dynamique d'étude qui s'engage. Qu'est-ce que ça donne? Sur une feuille posée sur le bureau, j'ai dessiné un triangle dont les côtés mesurent 9,5, etc. La question se règle rapidement. La professeure avait prévu des calques, ce qui fait que là, vous avez un milieu qui permet aux élèves, effectivement, de valider leur construction. Ils construisent un triangle avec les mesures de côté qui sont données et ils vérifient sur le calque qu'il y a bien superposition. Donc ils ont résolu un problème de construction géométrique. Sans que ce soit le professeur qui leur dise si oui ou non ils avaient raison. Sur la deuxième feuille, donc celle où on donne les trois angles, sans te déplacer, peux-tu trouver combien mesurent les côtés de ce triangle? Bah, les élèves dessinent plusieurs triangles de même forme. Et donc répondre rapidement que la donnée de trois angles ne suffit pas. Bon, bah, ces deux premières situations, déjà, lancent en quelque sorte l'interrogation, qu'est-ce qu'il faut comme donnée pour pouvoir reproduire un triangle ? Reproduire voulant dire être capable d'en construire un qui lui soit superposable. Oui, au passage, à noter déjà que les élèves voient bien que la donnée de deux angles suffit, bien sûr, pour tracer le triangle, pour tracer pardon, un triangle, et que le troisième angle est entièrement déterminé par la donnée des deux premiers. Au passage, ça c'est une piste qu'on n'a pas, que la professeure n'a pas véritablement exploitée. Si le troisième angle est complètement déterminé par les deux premiers, est-ce qu'on peut déterminer sa valeur ? Elle avait fait déjà auparavant, puisque dans le programme, c'est pas dans le même sujet, elle avait déjà fait la somme des angles d'un triangle. Ce qui est dommage. Bon.
C'était pas justement là l'objet de faire des mathématiques ?
Absolument. Mais oui. Ah ben, elle a regretté d'avoir fait la somme des angles d'un triangle avant, parce que là, la question de la somme des angles d'un triangle venait... Surtout que, regardez ce que font les élèves. Ça ouvre la voie à ce qui a été fait à Marseille, c'est-à-dire qu'avec cette question de triangle déterminé par des angles, les élèves font assez spontanément des configurations de Thalès, et ce qu'a fait Marseille, c'est Marseille a exploité en quelque sorte cette figure faite par des élèves de 5e pour obtenir Thalès. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas dévoiler le sujet. Je poursuis. Est-ce que deux données suffisent pour déterminer un triangle ? Voilà des extraits de cahiers d'élèves. Si vous avez deux longueurs, ça suffit pas. Si vous avez deux angles, ça suffit pas. Les élèves répondent même qu'il y a une infinité de triangles. Alors là, je ne sais pas dans quelle mesure c'est la prof qui a suggéré le vocabulaire, mais peu importe. Vous voyez réapparaître ici, là, la configuration de Thalès. Et certains élèves en cinquième sont capables de dire, lorsqu'ils superposent comme ça l'angle en A, que les côtés... opposés à l'angle A sont parallèles puisque vous avez des angles correspondants égaux. Ouais, ils ont ça. Ouais. De bons élèves le disent spontanément. Alors ensuite, est-ce que trois données suffisent pour déterminer un triangle ? Trois côtés, c'est en quelque sorte la situation initiale. Facilement, les élèves répondent que oui. Ils utilisent en quelque sorte ce qu'ils ont vu avec le triangle de la première question. Il existe. Hein. Ce que j'ai noté là, c'est ce qu'a dit la prof, c'est que les élèves n'ont pas fait apparaître la question portant sur l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire que la question qu'il leur a posée, c'est un triangle étant donné, est-ce qu'on peut, connaissant les trois côtés, reproduire un triangle qui lui soit superposable ? C'est une autre question que de se demander si trois longueurs étant données, est-ce qu'on peut construire un triangle correspondant à ces trois longueurs ? Et ça va appartenir en quelque sorte au professeur de relancer l'étude sur cette question si effectivement elle n'apparaît pas. Voilà ce qu'a dit le professeur. Elle l'a pas vu apparaître, donc elle a dit on y reviendra après. Enfin pour elle. La question de trois angles a déjà été vu avec la deuxième question. La réponse est la même. Hein. Plus intéressant... Alors, est-ce que trois données suffisent pour déterminer un triangle ? On a vu les trois angles, on a vu les élèves ont vu les trois angles des trois côtés. Qu'est-ce qui reste à voir ? Deux côtés à un angle. Ça, assez rapidement, les élèves arrivent à un des cas d'isométrie. Ce qui fait que la professeure leur a donné comme théorème, lorsque deux triangles ont un angle égal compris entre deux côtés égaux, chacun ils sont égaux. Bon. Deux côtés et un angle. Ça a été intéressant parce que on a eu des résultats auxquels la professeure ne s'attendait pas, ce qui fait qu'elle a été un peu déstabilisée à certains moments. Vous savez que lorsque vous avez deux côtés à un angle, le cas d'isométrie dit qu'il faut que l'angle soit compris entre les deux côtés. Et que le triangle est déterminé si effectivement l'angle est compris entre les deux côtés. Question, s'il n'est pas compris entre les deux côtés, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, classiquement, pour illustrer le fait que lorsqu'on a deux côtés et que l'angle n'est pas compris entre les deux côtés, on a ce cas de figure. Et on montre l'existence, non pas d'un triangle, mais de deux triangles. Sauf que, ben dans certains cas, le triangle est unique. C'est lorsque vous avez le côté opposé à l'angle qui est plus grand que le côté adjacent. Bon, ben ça, on a découvert ce petit théorème, parce que c'est l'étude des élèves, en quelque sorte, qui ont dit « Non, non, madame, venez voir, j'ai qu'un triangle. » Alors maintenant, si on pose également la question de l'existence de triangles en fonction de lorsqu'on se donne trois données, lorsqu'on donne par exemple deux côtés et un angle, vous avez un troisième cas qui est que qu'il n'existe pas de triangle. C'est ce cas là où le troisième côté, le côté opposé à l'angle, est plus petit que le côté adjacent. Bon, ça nous a permis, nous, de voir ce type de choses de façon plus claire. Et ça illustre ensuite certaines choses, comme par exemple, vous le verrez tout à l'heure avec ce qui a été fait à Bordeaux, lorsque vous avez un triangle rectangle, si vous connaissez un angle droit et l'hypoténuse, vous êtes exactement dans ce cas, c'est-à-dire que vous connaissez deux côtés et l'angle, sans que l'angle soit compris entre les deux côtés. Et cependant, le triangle est entièrement déterminé. Bien, en cinquième, le programme fait qu'on peut guère aller au-delà. Et le programme, en quelque sorte, oblige les enseignants à clore ainsi, alors qu'il y a une dynamique qui, éventuellement, pourrait être poursuivie. On peut peut-être regretter, par exemple, ce que faisaient les anciens programmes, effectivement, qui mettaient davantage l'accent sur un usage des triangles isométriques, des triangles égaux, pour déterminer des longueurs. Là, simplement, ça a disparu, ce qui fait que, tel que c'est fait dans les programmes, on peut bien, effectivement, dire qu'on visite un musée sans trop se poser de questions sur les usages. La professeure avait donc laissé de côté la question de l'unité triangulaire, et donc elle relance la question. Et si pour les trois côtés, on choisit trois nombres au hasard? Bon. Là aussi, les élèves font des essais au brouillon. Et ensuite, l'inégalité triangulaire apparaît assez facilement, du moins sans trop de difficultés. Et pour les angles, peut-on choisir trois nombres au hasard? Alors ça, c'est quand la professeure a essayé de reprendre, une année suivante, la question de la mesure des la somme des angles. Les élèves ont donc vu que si vous aviez deux angles donnés, le troisième était déterminé. Et question qu'on n'a pas bien résolue parce qu'on ne l'a pas travaillé, en vérité, pas assez du moins, c'est comment amener les élèves en quelque sorte à une démonstration, à une démonstration, du fait que la somme des angles est égale à 180 degrés. Alors ce qu'a fait la professeure, c'est qu'elle a dit « qu'est-ce que vous connaissez au sujet des angles ?» Les élèves connaissent des valeurs d'angle particuliers, les angles adjacents, etc., les angles complémentaires, mais elle n'a pas réussi véritablement à faire ce qui pouvait la satisfaire. Maintenant, en y réfléchissant un peu, moi je dirais que, chose qu'on a fait dans une autre classe, à propos de la somme des angles dans un triangle, c'est on demande aux élèves de mesurer les angles de triangles divers, d'en faire la somme. Si vous faites ça en classe de 5e et que vous demandez la somme, vous allez obtenir... comme valeur, des valeurs entre 176 et 184, aux incertitudes près. Oui, ça marche. Ce qu'on a fait, c'est que on a demandé aux élèves, est-ce qu'on pourrait construire, problème de construction, un triangle dont la somme des angles serait nettement différente de 180 degrés. Alors, ce que font les élèves, par exemple, on leur avait donné des feuilles à trois, c'est qu'ils construisent de très grands triangles, pas des très grands triangles, relativement à ce qu'il peut faire sur une feuille A4, parce que, pense-t-il, si on agrandit le triangle, la somme des angles va s'agrandir. Donc ils sont un peu surpris de voir qu'il n'en est rien. Ils essayent de faire des tout petits triangles, et c'est toujours aux alentours de 180. Donc ce qu'on aurait peut-être pu faire, c'est partir de ce type de situation, et se dire, mais après tout, si on peut pas construire des triangles comme ça, qui aient des sommes des angles très différentes de 180 degrés, est-ce que par hasard, ça serait toujours 180 degrés? Ou, peut-être pour amener le 180 degrés, excusez-moi, déjà se demander, si la somme est toujours la même, est-ce qu'on connaît des triangles dont on puisse dire que la somme des angles vaut tant? Ils ne connaissent pas encore la somme des angles d'un triangle, donc ils ne peuvent pas dire que les angles d'un triangle équilatéral c'est 60 et donc 3 fois 60. En revanche, ils connaissent le triangle rectangle isocèle, 90 et 2 fois 45. Là, je suis en train de bâtir quelque chose qu'on n'a pas expérimenté, qu'il conviendrait de reprendre, mais qui, me semble-t-il, doit pouvoir se faire peut-être sans trop de difficultés avec un jeu de questions. Si la somme des angles est constante, C'est donc 180 degrés, puisque dans un triangle rectangle isocèle, c'est 180 degrés. Alors ensuite, comment démontrer que la somme des angles vaut 180 degrés? Est-ce qu'on connaît un angle qui vaut 180 degrés? C'est un angle plat. Comment on pourrait faire pour avoir un angle plat? Bon, voilà. Et si, à ce moment-là, on se pose la question de comment faire pour avoir un angle plat, si éventuellement je propose aux élèves d'avoir un jeu de triangles, trois triangles isométriques qu'ils peuvent déplacer, peut-être pourrait-on espérer en quelque sorte qu'ils les positionnent de telle sorte qu'on fasse apparaître un angle de 180 degrés et qu'on puisse le démontrer à l'aide des angles alternatifs. Ça, c'est une autre piste qu'on essaye d'explorer, c'est-à-dire d'essayer de faire qu'une démonstration ne soit pas parachutée, ne soit pas uniquement donnée par le professeur, mais que les raisons pour lesquelles on arrive à faire telle démonstration puissent apparaître aux élèves. Il y a bien des démonstrations où les élèves nous disent « Ok, je comprends, mais pourquoi le matheux a pensé à ça ?» Ouais. Bien, voilà, je termine pour Clermont. J'enchaîne sur Bordeaux, là.
Oui. Tu fermes dans... Voilà, et ça doit être 2, voilà.
Moins 10.
Encore...
Non, mais c'est pas... Je passe à Bordeaux, maintenant on est en quatrième, et questions qui se sont posées, c'est comment enseigner le cosinus en quatrième. Pourquoi le cosinus? Parce que c'est le programme prévoit le cosinus. Mais vous allez voir que leur façon de faire permettrait de traiter éventuellement des lignes trigonométriques usuelles. Bon, bah, ils utilisent un peu ce qu'on a fait à Clermont en cinquième, c'est-à-dire qu'en cinquième, les élèves savent que trois mesures peuvent déterminer un triangle dès lors qu'on les choisit correctement, c'est les cas d'isométrie. Quelles données angle ou côté déterminent un triangle rectangle? C'est-à-dire qu'on passe d'un triangle quelconque à un triangle rectangle. Et là, il apparaît que dès lors qu'on a un angle droit, deux éléments supplémentaires suffisent, un angle aigu et un côté. Deux côtés. Deux côtés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'angle droit connu n'est pas compris entre les deux côtés. Hein, c'est le petit cas d'isométrie que les élèves ont fait apparaître tout à l'heure. Petit parce qu'il n'est pas officialisé. Hein. Si on peut construire. Et là apparaît une question, bien sûr, qu'on peut se poser. Si on peut construire un triangle avec deux données, un triangle rectangle avec deux données, est-ce qu'on peut trouver par un calcul la mesure des autres éléments? Puisque les autres éléments sont entièrement déterminés. C'est-à-dire que là, on aborde quelque chose qui n'a pas du tout été vu en cinquième, c'est-à-dire un aspect calculatoire. Alors à partir de deux côtés, bah, si vous connaissez deux côtés, la réponse à la question « Peut-on calculer la longueur du troisième ?» ça va être la leçon sur Pythagore, et là je pense que les manuels regorgent d'activités qui permettent effectivement de démontrer Pythagore. Simplement ici, vous voyez que la question... Pythagore apparaît comme motivé par une question portant sur les triangles rectangles. Est-ce que lorsqu'on connaît deux côtés d'un triangle rectangle, on peut en déterminer la longueur du troisième? Bon. Est-ce qu'on peut y en calculer ou en déterminer les angles également, les angles aigus, hein, puisqu'on connaît l'angle droit? Est-ce qu'à partir d'un angle aigu d'un côté, on peut calculer les autres côtés? Vous êtes dans la dynamique qui a été créée par ce qu'on a vu en cinquième. Au passage, nous disent nos collègues bordelais, c'est que pourquoi se restreindre au triangle rectangle? Après tout, les cas d'isométrie spécifiques, lorsqu'on connaît par exemple trois côtés, le triangle est entièrement déterminé, donc on peut se poser la question de la détermination des angles lorsqu'on connaît les trois côtés. Il faudra attendre la première avec le théorème d'Al-Kashi pour que les élèves aient la réponse. Vous voyez qu'au passage, ça pourrait nous permettre de formuler quelques réflexions sur les programmes et quelques propositions de modification de programme. Mais comme on expérimente dans les classes, on est obligé de s'assujettir au programme. Bon, comment calculer les autres mesures à partir de données sur angle et côté dès lors qu'on sait que ça suffit pour les construire? Les collègues bordelais ont vu Thalès auparavant. Et peuvent en quelque sorte, Thalès, donc c'est Yves qui vous présentera comment on peut utiliser la dynamique d'une étude sur les triangles pour avoir Thalès, et donc l'illustre par des configurations avec des triangles rectangles. Alors, ce que les collègues bordelaises ont proposé, c'est voilà les problèmes suivants. Alors, une situation qu'ils appellent zéro parce que c'est en quelque sorte pour mettre en évidence le fait qu'on va s'intéresser au rapport entre deux côtés, rapport entre un côté de l'angle droit et l'hypoténuse, avec comme première consigne tracer trois triangles rectangles différents, chacun d'entre eux ayant un côté de l'angle droit qui mesure la moitié de l'hypoténuse. Quelle conjecture pouvez-vous faire ? Les élèves rentrent facilement dans le jeu et assez facilement découvrent que tous les triangles tracés, comme ils disent, c'est le même triangle mais à une échelle différente. Ben oui, ils ont déjà vu les échelles, ils ont déjà vu la proportionnalité, c'est des choses qu'ils peuvent dire sans trop de problèmes. C'est le même triangle qu'on agrandit ou qu'on rétrécit. Les élèves peuvent voir également que c'est la moitié d'un triangle équilatéral, en l'occurrence, et donc en conclure qu'un des angles mesure 60 degrés et l'autre 30 degrés. Donc le fait qu'on donne un rapport entre côté de l'angle droit et moitié de l'hypoténuse, dans ce cas particulier, permet de déterminer les angles. Ensuite, consigne 2, tracer trois triangles rectangles différents, chacun d'entre eux, il y a un côté de l'angle droit qui mesure les trois quarts de l'hypoténuse. Et là aussi, les élèves font des tracés et s'aperçoivent bien sûr que les triangles ont même forme et que par conséquent, les angles sont déterminés par la donnée de ce rapport. Mais là, ils ne peuvent pas dire quelle est la nature de l'angle, ils n'ont pas d'éléments qui permettent de répondre à la question. Alors ensuite, pour rapprocher un peu le cosinus, problème de détermination d'une longueur dans un triangle rectangle. Les élèves sont invités à tracer trois triangles rectangles ayant tous un angle donné de 20 degrés par exemple, puis de 35 degrés. Et le professeur leur demande de mesurer les hypoténuses et les côtés adjacents à l'angle de 20 degrés ou 35 degrés. Bon, je reprends là le commentaire des professeurs qui ont fait cette expérimentation à Bordeaux. À ce moment-là, disent-ils, le vocabulaire côté adjacent à un angle est introduit. Dans la dynamique vue en cinquième, c'est un vocabulaire qui a déjà été introduit en cinquième. Ensuite, problème. Une fois que les élèves ont tracé ces triangles, le professeur annonce qu'il possède lui-même plusieurs autres triangles rectangles, alors plusieurs autres, pas un seul, ayant aussi un angle de 20 degrés, ou 35 degrés, mais hors d'atteinte des élèves. Là aussi, question de détermination d'une grandeur géométrique inaccessible. Un de ces triangles est tracé au tableau et son hypoténuse mesure 98 cm. 98 de façon à ce que l'élève ne puisse pas le reproduire sur sa feuille de papier. Il s'agit de prévoir la mesure du côté de l'angle droit adjacent à l'angle de 20 degrés dans ce triangle. Le professeur annonce qu'il posera ensuite le même problème pour les autres triangles qu'il détient en donnant aussi la mesure des hypoténuses. Et il est dit que les élèves ne peuvent plus rien tracer ni mesurer, mais ils ont le droit de faire tous les calculs qu'ils veulent à partir des mesures qu'ils ont déjà relevées. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des triangles qui ont un angle, pardon, des triangles rectangles qui ont un angle de 20 degrés ou de 35 degrés. Et le professeur indique bien qu'il veut le même calcul pour plusieurs triangles, deux ou trois, pas plus. Deux ou trois parce que ça suffit. Alors, ce que nous disent les collègues, c'est que les élèves voient qu'un seul rapport donne tous les résultats. C'est le rapport entre l'angle droit, la longueur du côté de l'angle droit et l'hypoténuse. Parce que d'autres élèves se sont engagés dans des situations de proportionnalité entre longueur des côtés, mais ça oblige à chaque fois à avoir un nouveau rapport de proportionnalité, donc à faire plusieurs calculs. Bon, vous voyez comme ça comment le cosinus va apparaître. Bilan de la première situation que fait le professeur dans sa classe, exercice 1, si des triangles rectangles ont le même angle aigu, le rapport entre côté adjacent et hypoténuse est le même. Ça, ils ont vu Thalès, donc ils peuvent énoncer ça. Et ensuite, pour des angles différents, les rapports sont différents. Là, ils disent que c'est une conjecture, ça ne doit pas être trop difficile à démontrer, ça, mais bon. Deuxième situation, problème de détermination d'un angle dans un triangle rectangle. Le professeur annonce qu'il possède un triangle rectangle inaccessible encore, dans lequel le rapport entre un des côtés de l'angle droit et l'hypoténuse est 3 dixièmes. Et les élèves, là, doivent non plus trouver la longueur d'une hypoténuse, mais doivent trouver la mesure des angles de ce triangle en ayant les instruments de dessin à disposition. Pour pourquoi ils appellent ça situation 3, je ne sais pas, mais enfin, là, on en arrive, si vous voulez, après ce type d'activité, que je ne décris pas dans le détail parce que je ne l'ai pas observé. Hein, le professeur peut donner la définition du cosinus, de l'angle aigu d'un triangle rectangle, comme rapport entre côté adjacent et hypoténuse. À quoi sert le cosinus? Si des triangles rectangles ont un même angle aigu, le cosinus de ces angles est le même. Et par conséquent. Excusez-moi. Non, il formule effectivement ce que les programmes attendent d'eux. Maintenant, à quoi sert le cosinus? Ça permet effectivement de déterminer soit une longueur si on connaît l'angle, soit de déterminer l'angle si on connaît la longueur. On est dans un point de vue fonctionnel pour introduire cette première ligne trigonométrique. Ensuite, il faut dégager le cosinus d'un angle du triangle rectangle. Et donc le professeur dit qu'il détient un angle et le montre rapidement de loin. Mais là aussi, il est inaccessible. Plusieurs feuilles pourront circuler dans la classe au moment de la validation. Le professeur fait remarquer que sur ce dessin, il n'y a pas de triangle rectangle. C'est simplement un angle avec un petit liseré au bout. Il annonce qu'il y a un cosinus de 0,25 pour cet angle. Et les élèves doivent dessiner l'angle du professeur et la validation se fait par superposition. Les professeurs disent qu'une erreur d'un demi-degré est permise. Ils n'ont pas de calculatrice. Là, on essaye. Ça, c'est des questions qu'on se pose. Là, si on fait apparaître ce type de diapo, c'est que quand on se pose la question de comment rendre compte de ce qu'on essaye de faire, est-ce qu'on doit décrire simplement les activités ou est-ce qu'on doit décrire également à quel moment le professeur institutionnalise, c'est-à-dire fait énoncer telle propriété, etc., etc. C'est des questions qu'on n'a pas résolues. Ça. Bon, voilà, il y a un moment d'institutionnalisation de cours. À tout nombre entre 0 et 1 est associé à un seul angle aigu si ce nombre est donné comme le cosinus de l'angle, etc. Voilà. Et on pourrait introduire comme ça également le sinus et la tangente. Et on va passer à un jeu de questions.
Il y a le micro.
Oui, c'est bien.
C'était celui-là.
Oui, bon, j'aurais deux questions. Une qui rejoint du reste ce que tu as dit aussi tout à l'heure. Toutes les activités qui ont été proposées posent quelque chose qui est encore beaucoup plus délicat. C'est le lien qu'on essaye de créer auprès de nos élèves, aussi bien à l'école primaire qu'au collège, entre une réalité, je dirais, sensible, physique, et une réalité abstraite, mathématique. Quand j'entends qu'après un raisonnement, on dit un demi de degré près, hein, par exemple, c'est-à-dire... toute la difficulté qu'il y a à savoir où est-ce qu'on est exactement. Est-ce qu'on est sur un dessin? Est-ce qu'on est sur une figure porteuse de propriété? Est-ce qu'on est avec des instruments de mesure ou est-ce qu'on est avec un calcul, avec, disons, un raisonnement? Et je me demande si les élèves savent toujours dans quel jeu ils sont. Je crois que c'est tout repose sur le problème, disons, de la mesure. C'est-à-dire que très rapidement, on va écraser la mesure sur une mesure exacte parce que ça va bien nous aider dans le calcul. Alors que la mesure, comme tu viens de dire, lorsque je suis dans le monde physique, c'est un intervalle. C'est donc forcément... Et donc, décréter que ça fait 180 degrés et aller recourir au rapporteur après, je me demande si on joue pas un jeu très très délicat avec les élèves, à savoir, si je continue à prendre mon rapporteur, ça sera un demi-degré près, etc. Et l'institutionnalisation qui, à partir d'expériences physiques, va dire à un moment donné, le cosinus, c'est effectivement ce rapport est invariant. Le moment donné où on va dire aussi que la somme des angles, c'est 180 degrés, c'est pas 180 degrés dans le monde physique, c'est 180 degrés dans ce monde idéalisé des mathématiques. Et je crois que là, il y a un enjeu qui est très très fort. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que Dieu a dit tout à l'heure pour Pythagore, la notion du milieu. Je crois qu'il est bien que Pythagore naisse dans le milieu désert. Je dirais qu'épistémologiquement, disons historiquement parlant, il est absolument, disons, nécessaire de le créer là-dedans. Est-ce que l'erreur de l'enseignement, c'est pas qu'après, au contraire, on ne travaille plus que sur des longueurs, sur des distances? Je connais deux côtés, j'aimerais avoir le troisième. C'est-à-dire qu'on retrouve très peu, finalement, je le vois avec des PLC de maths, quand j'essaie de travailler sur des choses comme les couches décomposabilité. Et à un moment donné, si je leur dis, il nous reste deux carrés, là, il faudrait bien en faire un troisième qui est comme R, la somme des deux, aucun ne réagit. Aucun, c'est-à-dire qu'on a tellement écrasé justement le milieu disons, où est né le milieu écologique, on pourrait dire où est né Pythagore, que finalement, le calcul des distances a pris le dessus et a peut-être occulté complètement la première question fondamentale. C'est deux questions, hein, je n'ai pas de réponse, hein, mais disons cette délicatesse, disons, de passer entre deux registres de travail qui sont très proches, le monde physique et le monde mathématique, mais avec des règles de travail qui sont très différentes.
Quelques éléments de réponse. Pythagore présenté comme quelque chose qui permet de résoudre un problème sur les longueurs, c'est, on l'insère dans une dynamique. Maintenant, la question, par exemple, c'est pourquoi il faut passer par les airs pour démontrer Pythagore? Il y a des démonstrations qui ne passent pas par les airs, avec les triangles semblables, certes. Mais il est vrai que les airs servent à démontrer beaucoup de théorèmes qui portent sur des longueurs, théorème de Thalès aussi, historiquement. On pourrait se poser la question. Par exemple, comment amener les élèves à concevoir, pour démontrer le théorème de Thalès en toute généralité en troisième ou en quatrième, qu'on peut utiliser des airs? On peut toujours poser la question, je n'ai pas nécessairement de réponse. Maintenant, sur la distinction que tu fais entre théorie et domaine de réalité qu'on modélise par la théorie, oui. Ceci dit, les profs qui ont expérimenté font un peu comme tous les profs, c'est-à-dire que probablement qu'ils écrasent un peu ce type de problème, mais il n'empêche que la théorie se valide quand même par des expérimentations qui certes fonctionnent de façon approchée, mais on admet, si tu veux, que la façon approchée n'est pas trop éloignée de ce que la théorie donne, et que par conséquent il y a consistance entre le domaine de réalité et la théorie. J'en dirai pas plus.
Oui, à ces propos, justement, je travaille depuis de nombreuses années, comme j'ai tout à l'heure, sur les diverses problématiques d'enseignement des maths, en particulier sur la géométrie, avec les collègues de l'IRM de Basse-Normandie. On a sorti justement un ouvrage en 2005 chez Ellipse qui s'appelle « Du dessin perçu ».
Il y en a un autre.
Donc je reprends. Oui, ça s'appelle du dessin perçu à la figure construite. Et justement, dans cet ouvrage-là, il y a un chapitre consacré à la notion des points communs à des droites, ou des points où les droites se coupent, ou les droites qui passent par un même point, et tout ça c'est une réalité, vous l'avez très bien exposé, à travers des problèmes de construction qui peuvent démarrer de la primaire. Une seule chose, c'est que moi je pense, et l'équipe est d'accord, qu'on abandonne trop vite les diverses moyens qu'on appelle, certains chercheurs appellent des médiations sémiotiques d'un même concept. Moi je l'appelais depuis ma thèse en 78 des univers différents qui sont en correspondance morphique. Par exemple, les problèmes des médiatrices, on peut très bien donner à un élève de collège un triangle découpé et justement plusieurs formes de triangles différentes découpées en papier cartonné, et par pliage obtenir le pli, c'est la droite, la médiatrice c'est les plis, c'est plus le crayon papier, c'est plus l'équerre qui glisse pour tracer au milieu, mesurer les milieux. Vous voyez, c'est un autre procédé de construction. Donc ce sont deux univers un peu différents, mais la notion des points communs, c'est le point où les plis se rencontrent, c'est les droites, c'est le point où les crayons passe dessus, se rencontre, se coupe, etc., etc. Donc, c'est par ces jeux des univers différents. On peut pousser aussi les choses. On peut faire de la géométrie dynamique avec plusieurs logiciels, Cabri ou GeoGebra, etc. Mais justement, ce week-end, on a travaillé dans l'IRM de Basse-Normandie et j'ai présenté une situation dans laquelle les collègues, ils étaient très d'accord pour faire glisser une équerre, que ce soit des universitaires, des collègues du collège, glisser une équerre le long d'une droite. Hein, c'est une image. Pour tracer, résoudre un problème de tracer une parallèle passant par un point extérieur à une droite donnée, donc par la procédure des glissements de l'équerre, mais il avait la procédure aussi des pliages des feuilles. Et quand on passe à Cabri géomètre, il avait une procédure dans laquelle j'interdisais d'utiliser la fonction perpendiculaire, la fonction parallèle, etc. Il fallait se débrouiller avec la fonction milieu, je ne sais pas, tout le monde connaît Cabri, etc. Bon, alors il y avait des solutions par approximation successive, et puis il y avait une solution par la droite des milieux, de fabriquer un triangle un peu à part, de bouger les points dans l'écran jusqu'à ce que ça fasse coïncider avec les points donnés, Et comme la droite des milieux est toujours parallèle à la droite donnée, bon, on arrive à une solution. Mais là, il y a plein de profs qui sont sursautés. Et oui, mais ça, tu as fait un ouvrage du dessin perçu à la figure construite. Et là, je ne suis pas d'accord, parce que les élèves qui ont trouvé ces solutions-là, si on fait un zoom, les points qui sont arrivés sur l'autre, ils n'arrivent pas sur l'autre. Donc, à quel degré travailler ça? Et justement, j'ai dit, c'est une occasion de voir, par la médiation des logiciels Cabri, comment un point coïncide avec un autre. Et dans cet ouvrage-là, la notion des points communs de droite, c'est très intéressant parce qu'on peut le travailler dès l'école primaire. Si les points sont, les droites sont obliques ou les segments sont obliques, mais dans une position en faisant un angle de mesure très petit, ben les élèves vont dire qu'il y a plusieurs points communs. Si les droites sont orthogonales ou perpendiculaires, les élèves disent tiens, tiens, peut-être il y aura un point commun, un seul. Vous voyez l'unicité du point. L'unicité du point à deux droites sécantes. Et cette unicité des droites à deux points séquents, ça peut poser problème. Je travaille avec les CAPES des mathématiques. Quand ils exposent la leçon des trois médiatrices, justement, concurrentes, dans un même point, ben ils commencent par dire, admettons, soit les points d'intersection de deux médiatrices montreront que la troisième passe par ces points-là. Je dis, tiens, pour les CAPES, ça serait très bien de démontrer l'existence déjà du premier point de deux médiatrices. Parce que jusqu'à quel point on démontre? Et puis après, quand ils ont montré très facilement que, par l'absurde, que ces deux droites-là sont vraiment concurrentes dans un vrai triangle. Après, il démontre la troisième, il passe, il dit, tiens, d'accord, il y a un point commun aux trois médiatrices, mais on peut pousser aussi, est-ce que ce point-là est unique? Donc là, ça revient à l'axiome que deux droites sécantes dans un même, deux droites sécantes, ils ont un seul point de séquence. Vous voyez jusqu'à quel point on peut pousser les démonstrations et la notion des points communs. Ça, c'était un premier point que je voulais développer. Et puis un deuxième point, j'ai beaucoup travaillé avec des équipes de là-bas aussi sur les problèmes d'agrandissement des figures. Ça me paraît un domaine justement où les mathématiques ont un sens fabuleux, parce que c'est très intuitif quand on montre deux photos, l'une agrandie de l'autre, dire c'est la même personne, etc. Donc c'est un univers que j'appelle familier. Je refuse d'appeler concret, j'ai refusé en 78 quand j'ai fait ma thèse. La notion de concret abstrait me paraît détourner les problèmes, tandis que la notion d'univers familier que j'appelais expérimentable dans le sens où les élèves n'ont pas trop à réfléchir, ils les sentent, comme on dit, intuitifs, ou peu importe. L'agrandissement des figures, c'est un domaine fabuleux pour faire des mathématiques. Et justement, ce que j'appréciais dans votre présentation, c'est qu'il y a des problématiques qui parcourent de la primaire, vous l'avez très bien dit, jusqu'à l'université. Et ce problème d'agrandissement des figures est fabuleux. Et Brousseau a utilisé ceci pour la proportionnalité. Nous avons poussé les choses beaucoup plus loin parce que, évidemment, une condition nécessaire et suffisante pour que deux triangles soient de la même forme, c'est qu'on multiplie, d'accord? Mais c'est une condition qui est nécessaire dans les cas d'un quadrilatère, ou un carré, ou peu importe, mais qui n'est pas suffisante. Donc parfois, les élèves, ils vont reproduire un carré en additionnant la même chose, ils vont faire un carré à côté, ils additionnent 3 cm, ils obtiennent un carré. Donc on traite de tous ces cas-là. Jusqu'à arriver à faire une notion fondamentale qui peut parcourir tous les collèges et qui peut partir de la primaire. Donc vous voyez que cette condition de nécessaire qu'en multipliant les longueurs des côtés, c'est nécessaire pour que les figures respectent la même forme, mais ce n'est pas suffisant dès qu'on dépasse un polygone de 4 côtés, 5 côtés, 6 côtés. Il y a d'autres conditions sur les angles, peu importe. Donc ce sont deux points qui me paraissent que les travaux de Brousseau ils peuvent être très bien prolongés. Et ces travaux-là, ils sont exposés sur le site IREM de Basse-Normandie, j'ai fait la pub, sur le site Relations internationales, articles disponibles. Donc là, il y a tout un tas de travaux qu'on développe là-bas sur ce sujet-là. Donc ça me paraît, si on veut donner du sens aux mathématiques, ça me paraît justement par des problématiques et par divers univers de médiation, soit cabri, soit pliage et feuilles, qu'on abandonne trop vite au collège, soit tracé directement avec des instruments, soit aussi, j'apprécie beaucoup ces figures de distance inaccessible. Dans cet ouvrage-là que j'ai mentionné, j'ai développé tout un chapitre sur les figures tronquées. C'est pareil. On va interdire à un moment donné, sur un carré dans lequel un des sommets n'est pas accessible, comment faire, et ça ce sont des problèmes que les élèves primaires, comme ils connaissent bien les carrés, ils arrivent à résoudre, comment faire pour tracer une partie d'une diagonale qu'on n'a pas accessibilité, la diagonale BD par exemple, pour un carré ABCD. On connaît la diagonale AC, etc., mais les points B n'est pas accessible. Donc ça, c'est des vrais problèmes intéressants, hein, et qu'on peut jouer avec une variable didactique en mettant trois sommets ou deux sommets, etc. Moi, je trouve que c'est par là que l'essence des mathématiques, et surtout en géométrie et en algèbre aussi, c'est l'anticipation, les structurations, et avec des problèmes qui sont morphiques, plus ou moins, dans des univers différents, et qui vont donner du sens au concept. Voilà, c'est mon intervention.
Une petite réflexion sur ce que vous venez de dire. Par exemple, la question qu'on peut se poser, effectivement, je reprends simplement une partie de ce que vous avez dit, c'est est-ce que la question de l'agrandissement et la réduction de figure pourrait constituer en quelque sorte une question génératrice d'études. Yves vous montrera un usage qu'en est fait pour introduire Thalès. Clairement, on s'est posé la question. C'est un peu difficile de traiter beaucoup de parties du programme avec cette question, mais il n'empêche que, par exemple, en classe de première, ça permettrait de motiver largement l'homothétie qui pourrait apparaître à ce moment-là comme un outil essentiel pour faire des constructions, pour les réaliser, il faut en quelque sorte abaisser une contrainte, c'est-à-dire, par exemple, si on veut inscrire quelque chose dans un cercle, on abandonne le cercle, on construit la figure avec une certaine liberté, on peut le faire, et à coup de homothétie, à ce moment-là, on se ramène dans la contrainte, c'est-à-dire qu'on l'inscrit dans le cercle. Ça permettrait de comprendre l'intérêt de l'homothétie.
Oui, moi je voulais juste intervenir sur les propos que tu évoquais, avant de te passer la parole. Effectivement, sur la mesure et sur l'expérience, la réalité et la géométrie théorique. Alors, effectivement, on va voir dans certaines propositions qu'il y a une dialectique qui est dans laquelle on place les élèves entre cette géométrie expérimentale de la construction, avec toutes les imperfections qu'il peut y avoir sur la construction ou sur la mesure, et une géométrie théorique, celle des mathématiques, qui permet de confronter ce que l'on observe sur la figure avec ce que la théorie permet de prédire, ou réciproquement d'observer sur la figure pour construire la théorie. On va voir, je ne sais plus si c'est cet après-midi ou demain, dans une des propositions de Bordeaux, fonctionner cette dialectique-là. Une deuxième remarque qui me vient à l'esprit, c'est effectivement, si par exemple on se lance dans la géométrie pour arriver à mesurer des distances inaccessibles, un frein, ce qui est propre au système tel qu'il est, par exemple, et que j'ai expérimenté pas plus tard que mercredi dernier, donc c'est très récent, on essayait de trouver une situation qui justifie le théorème de Thalès-Papillon. Bien. Alors évidemment, on est à Marseille, donc c'est assez facile, on a la mer, on a des phares, on a des îles, etc., et donc on peut chercher des distances inaccessibles de cette manière-là. Oui, mais tu as le puits de Dôme, toi. Alors, donc, on était avec les professeurs et on disait, c'est pas très compliqué, il suffit de dessiner des triangles semblables, mais en se déplaçant sur la côte, bien entendu. En se déplaçant sur la côte et en visant le même point, et on va avoir deux angles, et puis on va avoir la distance sur la côte. Et évidemment, le problème qui surgit immédiatement, c'est, oui, mais je vais faire sortir mes élèves, là. Je vais aller me mesurer, je vais déplacer, je vais prendre une chaîne d'arpenteur, qu'est-ce que je vais faire? Bon. Autre problème, ne serait-ce que faire sortir les élèves dans la cour pour prendre des mesures, c'est quelque chose qui se pratique pas, qui se fait pas. Donc, il y a une difficulté, presque liée au système, scolaire tel qu'il est organisé, où ce genre de pratique n'existe pas. Donc, par exemple, ce que montrait Robert sur Clermont-Ferrand avec sa feuille de papier sur laquelle on va simuler une rivière, c'est... Alors, moi, j'ai présenté ça mardi dernier. Alors, mardi, j'étais à Toulouse, mercredi, j'étais à Marseille. Mardi, à Toulouse, je présente le cas de Clermont. Et on me dit, oui, mais c'est fictif, ça. Bon, je dis, d'accord, mais... On fait comment, là? On va aller sur le terrain et reproduire un grand triangle, etc. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je vais faire une maquette. Je vais faire une maquette et les élèves pourront viser sur la maquette en réduction. Bon, on se heurte. Mais comment ils vont faire pour pas pouvoir mesurer? On va mettre une montagne. Ah oui, mais si on met une montagne, alors là, on est foutu. Alors, on a résolu le problème avec, on va mettre une barrière d'autoroute vitré, un mur anti-bruit d'autoroute. Bon, oui, alors l'imagination vagabonde, mais Dans la transposition dans la classe de situations réelles que les hommes ont résolues, hein, je prenais tout à l'heure l'exemple du tunnel de Samos, ça pose un certain nombre de difficultés. Voilà.
La question que je voulais poser était bien autour de cette première situation avec la rivière sur le papier. Ce qui m'interpellait, c'est le très peu de temps qui était accordé autour de cette situation et cette impression que dans la suite de l'activité, rien n'y revenait. Et que tu disais à un moment donné que ces grandes questions disparaissaient de l'esprit des élèves. Et je me disais, si toutes les AER sont bâties sur cette logique-là, il n'y a pas de bonne raison qu'elles y restent. Si cette situation-là a duré un quart d'heure sur un enseignement qui a duré 7-8 heures et que rien n'a rebouclé quelque part là-dessus, et si la résolution de ce problème, on ne sent pas véritablement qu'elle est devenue celle des élèves.
Oui, mais je peux répondre facilement. Ma réponse serait, les programmes sont tels que, en quelque sorte, la professeure a fait ça. Et puis, si tu veux, quand elle regarde le programme, elle se dit « je suis obligée d'abandonner ». Ce qui fait que la situation de la rivière est une situation dont elle donne, en quelque sorte, une solution mathématique avec la reproduction d'un triangle, mais c'est quelque chose qu'elle ne donnera pas en exercice ensuite. Alors que les programmes anciens d'avant 70, avec tout le jeu sur les cas d'égalité des triangles, au contraire, mettaient l'accent de l'activité sur la détermination de longueur par le jeu de triangles isométriques. Mais ça, les programmes font que, effectivement, d'une certaine façon, la dynamique d'études qu'on peut créer s'éteint. Et ça, comme on est contraint par les programmes, c'est une difficulté essentielle à laquelle on touche. Par exemple, même chose pour l'introduction de l'algèbre. On a des belles situations. D'ailleurs, celle qui est proposée par le document d'accompagnement en cinquième avec la situation des carrés, on peut la faire vivre assez facilement. Et ensuite, question, c'est à quel moment on va trouver effectivement des situations où on va pouvoir manipuler des problèmes de calcul. Chez ceux qui font passer le brevet il y a 2 ans, pas cette année, mais l'année précédente, il y avait un problème de calcul. Et il fallait démontrer que c'était tout le temps un carré, qu'on obtenait un carré. Et à Clermont, peut-être que l'Auvergne est particulière, il y avait au maximum sur un paquet de 50 copies, il y avait 2 élèves qui avaient réussi à trouver la solution. Ce qui fait que les élèves conçoivent difficilement l'algèbre comme quelque chose qui met en scène des problèmes de calcul. Mais c'est pareil quand on regarde les programmes de collège. Il y a peu d'occasions de réactiver en quelque sorte ce qui peut être mis en scène par cette situation initiale des carrés.
Tu as peut-être quelque chose à ajouter ça?
Oui, c'est une difficulté qu'on a.
C'est un problème.
Oui, c'est un vrai problème parce que ce qu'on pourrait espérer s'il y avait dynamique, c'est par exemple, je démontre tel théorème, théorème de Thalès par exemple. Est-ce que ça peut me servir à réinvestir une des grandes questions qu'on s'est posées, par exemple, à calculer des distances inaccessibles? En principe, la réponse devrait être oui. Je suis pas sûr que les élèves savent, avec la plupart des façons dont c'est fait dans la plupart des manuels, sachent utiliser ce théorème pour calculer une distance inaccessible.
Oui, et puis, par exemple, sur le théorème de Thalès dont parle Robert, bon, la situation que je vous montrerai, rapidement, on en vient au triangle semblable. Mais ne serait-ce que le mot triangle semblable, il apparaît pas du tout dans le programme, puisqu'en seconde, c'est des triangles de même forme. Bon, on a quand même décidé en quatrième, le professeur a été convaincu d'utiliser ce terme, parce que il va bien falloir désigner les triangles par un qualificatif. Mais on est bloqué parfois par des peccadilles de cet ordre qui relèvent des programmes. C'est-à-dire que il va falloir que le professeur s'autorise à s'affranchir de certaines contraintes. C'est vrai qu'on est un peu gêné, mais bon.
Pourquoi aussi attendre la première pour voir la loi des sinus et le théorème d'Al-Kashi, Pythagore généralisé, qui permet de résoudre un triangle en toute généralité, alors que la question peut être posée dès la cinquième. Au passage, la démonstration qu'on peut faire en seconde, c'est dans le plan, alors que la manipulation des élèves de cinquième est dans l'espace.
Oui, je peux juste ajouter quelque chose sur les mots qu'utilise l'enseignant des mathématiques. Par exemple, les mots superposables. Bon, ça vient un peu de la primaire. Mais c'est un mot, je disais à l'époque, lié à des actions directement expérimentables qui ont été expérimentées. Donc, c'est surtout des actions. Mais quand on dit, par exemple, avoir la même forme, est-ce que l'élève a vraiment fait des actions de la primaire jusqu'au secondaire pour vraiment intégrer ces actions expérimentables qui ont été expérimentées sous la terminologie précise, avoir la même forme, bien que ce soit une terminologie liée à des actions qui vont valider après le fait qu'il est nécessaire d'avoir démultiplié les mesures des côtés, il est nécessaire de garder la mesure des angles, pour réussir, c'est ce que ça veut dire, les mêmes formes, pour réussir, ce que ça veut dire superposable, pour réussir, ce que ça veut dire passer par un point, sauf que passer par un point, je crois que ce n'est pas très expérimentable. Personne n'est passé dans un point.
Bon, ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions et que les estomacs, sans doute, commencent à être vides, on va peut-être passer à table.